Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel.
Bonjour et bienvenue dans Dialogue numéro 6. Bonjour François Sorel.
Bonjour Jérôme Colombin, bonjour à toutes et à tous. Tu sais que depuis 6 semaines, Jérôme, tous les mardis, je télécharge Dialogue.
Et tu y arrives parce qu'il y a beaucoup de monde.
Alors, je fais la queue, comme tout le monde, et je prends un petit ticket, tu sais, comme à la charcuterie.
Comme chez le charcutier.
Ouais, c'est ça.
Au sommaire cette semaine, on parlera des fournisseurs d'accès à Internet. C'est un peu le Far West en ce moment.
Oui, et puis il y en a deux qui viennent de se faire flinguer d'ailleurs.
Oui, sur
Free
dire,
et Wanadoo.
Devant le tribunal,
oui,
effectivement.
Par Que Choisir.
Par Que Choisir, dans un instant, on écoutera Que Choisir, justement.
Oui, une juriste sera avec nous. On parlera aussi de trois lettres que tu détestes cordialement en ce moment, c'est D, R et M.
Effectivement, c'est synonyme de musique légale sur Internet. J'ai eu une mésaventure que je te raconterai.
D'accord. Et puis, on vous présentera un nouveau service qui vient d'arriver. C'est une alternative intéressante à l'envoi de recommandés postaux. On peut envoyer maintenant ses recommandés via le net.
C'est la dématérialisation.
Mais calme-toi, Jérôme, ça va bien se passer. Jérôme, j'ai une question grave à te poser.
Ouh là là, je m'attends au pire.
Au pire, tout pire d'ailleurs. Non, plus sérieusement, est-ce que tu pourrais supporter de ne plus avoir une connexion Internet à la maison ?
Oui, oh non, mon garçon, je préférerais ne plus avoir d'eau chaude.
C'est un peu la galère quand tu as des problèmes
oui,
avec
c'est vrai
ta
que
connexion
ça peut
Internet.
Arriver. Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Et là, tu rentres dans une logique qui est quand même assez compliquée. Souvent, ton fournisseur d'accès te répond pas, n'arrive pas.
Il se renvoie la balle, voilà, les uns et les autres, voilà. Etc. C'est très complexe.
Et Free et Wanadoo ont été condamnés d'ailleurs pour ça, pour clause abusive.
Ouais, tout à fait. Tout récemment. Et puis il y a d'autres jugements qui doivent intervenir prochainement. Mmh. Tout cela à l'initiative de l'UFC Que Choisir. Alors l'idée maintenant, c'est que les fournisseurs d'accès seront soumis à une obligation de résultat.
Oui, un gros coup de pied dans la fourmilière que vient de mettre Que Choisir. On va en parler avec Sandra Veling, qui est juriste à l'UFC Que Choisir. Bonjour Sandra.
Bonjour.
Alors Sandra Veling, que signifie cette obligation de résultat ?
Dès lors qu'ils s'engagent à fournir un service sans limitation dans le temps, ils doivent le fournir sans interruption. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation de résultat, contrairement à l'obligation de moyens qui est inscrite dans leurs conditions générales.
Ça veut dire qu'auparavant, il n'était pas obligé de se justifier quand un service n'était pas rendu ?
Exactement. Auparavant, il disait qu'il faisait les meilleurs efforts pour fournir le service, alors qu'en fait, toute interruption pour quelque cause que ce soit, sauf la force majeure bien sûr, donne lieu à réparation pour l'abonné.
Donc l'obligation de résultat, ça veut dire que maintenant, ils ne pourront pas laisser un abonné comme ça, tout seul, sans connexion ?
Exactement, même pour cause de maintenance ou de panne technique.
Sandra Veling, bon, c'est bien a priori pour les consommateurs ce qui se passe, mais il y a quand même quelque chose de particulier dans l'accès à Internet, c'est que un fournisseur d'accès ne maîtrise pas la totalité du réseau. Il y a plusieurs acteurs entre Internet et le consommateur final.
Oui, alors ça, évidemment, c'est le grand argument qu'on nous oppose régulièrement. C'est vrai qu'on nous dit que n'étant qu'un maillon de la chaîne, ils ne peuvent pas tout contrôler. Ce à quoi nous répondons et ce que les magistrats aussi répondent, c'est qu'en fait, l'abonné n'a qu'un seul interlocuteur, c'est son fournisseur d'accès. Donc, il n'a pas à aller rechercher la responsabilité d'autres intervenants. En d'autres termes, l'abonné se retourne contre son fournisseur d'accès, qu'il indemnise, et c'est au fournisseur d'accès de se retourner ensuite vers un intervenant responsable du problème.
Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est moraliser Internet en France ?
Ben, moraliser, théoriquement, nous ne devrions pas avoir à le faire. C'est vrai que c'est regrettable qu'on soit obligé d'engager des actions en justice pour faire respecter les droits des consommateurs. Maintenant, effectivement, on a engagé des procédures contre certains fournisseurs d'accès. On demande fortement aux autres de s'y conformer, puisque maintenant, encore une fois, la jurisprudence est constante sur le sujet. Et nous espérons bien que, de toute façon, pour leur image de marque, ils ont tout intérêt à respecter les droits de leurs abonnés.
Donc en substance, Jérôme, on l'a bien compris, les FAI n'ont qu'à bien se tenir et c'est bien ce qui vient d'arriver et c'est le consommateur qui gagne.
Oui, effectivement. Alors il faut préciser quand même que les fournisseurs d'accès peuvent encore faire appel puisque c'était un jugement de première instance uniquement.
Un appel à 34 centimes d'euros la minute.
Oui, devant la cour d'appel.
Dialogue, la chronique des nouvelles technologies.
Tiens, Robbie Williams, Phil, quelle bonne idée de nous diffuser ce titre-là, Jérôme.
Eh oui, ça te change de la techno.
Ouais. Ah tiens, j'y pense. Est-ce que tu peux m'envoyer ça par mail ?
Ah bah non, c'est pas possible.
Mais pourquoi ça ?
Je suis désolé.
Bah tu l'as acheté cette chanson.
Elle est à moi, mais je peux pas te la donner à cause des DRM. Tu connais ?
Bah c'est les Digital Rights Management.
Voilà, c'est ce qui fait que t'as pas le droit de copier de la musique n'importe comment. Tu n'as pas le droit. Je peux même pas te la donner. Je peux pas te la prêter. Je peux rien faire.
Et pourtant,
en réalité,
tu l'as acheté cette musique.
Je l'ai acheté tout à fait légalement, mais je ne peux pas te la donner comme si je te donnais un CD qui m'appartient.
D'accord.
Et tu sais ce qui m'est arrivé même ? J'ai bricolé mon ordinateur. Tu sais, j'ai changé de carte mère, processeur, tout ça. J'ai juste gardé mon disque dur sur lequel il y avait notamment ma musique. Je rebranche tout.
Que tu avais acheté donc ?
Absolument, la musique légale, on va dire commerciale. Je rebranche tout. Impossible, ça marche plus.
Et pourquoi ça ?
Les fichiers étaient toujours là, mais je n'avais plus le droit de les écouter. Pourquoi ? Parce que les DRM se basent sur la configuration de l'ordinateur pour authentifier le propriétaire. Ça veut dire qu'il savait que c'était ma musique parce qu'il avait reconnu mon ordinateur. Tout d'un coup, l'ordinateur a changé. Il se dit, hop, cette musique n'a plus
à être sur cette machine-là, en fait.
Exactement.
Ton sang n'a dû faire qu'un tour.
Ah, est-ce que tu, est-ce que colère,
tu, voilà, est-ce que tu es arrivé à résoudre ce problème?
Alors, je suis allé chercher sur les forums de discussion, les sites web, des sites en anglais avec des explications techniques qui vous disent, réinstallez votre ordinateur comme avant. Bah, voyons.
Oui, donc alors que tu viens d'acheter un nouveau disque dur, un nouveau processeur, une nouvelle carte mère, voilà. Il faut que tu mettes tout à la poubelle
donc,
et que tu
restes.
Un peu
énervé. Ouais, alors la seule solution, c'est vrai, car elle existe, c'est de s'adresser aux magasins virtuels, les marchands,
les Compile, les Virgin Mega, etc.
Auprès desquels j'avais acheté ma musique et qui ont bien voulu, par amabilité sans doute, me renouveler mes licences.
Est-ce que ça ils le font systématiquement ou c'était simplement un geste commercial?
Je n'en sais rien. En tout cas, on peut se poser la question. Et ce qui est sûr, c'est que ça complique énormément l'utilisation de la musique.
Donc véritablement, on est menotté avec ces DRM. On achète une chanson qui ne nous appartient pas finalement.
C'est la conclusion à laquelle on ne peut pas s'empêcher d'arriver. Les biens culturels virtuels, en réalité, ne nous appartiennent pas réellement. Les DRM, c'est vrai, ça a été mis en place par des sociétés comme Microsoft notamment, pour fournir aux vendeurs de musique, aux artistes, etc., une solution fiable. Enfin, ils peuvent vendre leur musique en ligne sans que...
On dilapide leur trésor.
Voilà, sans qu'on puisse faire des copies à tire-larigot. Mais l'inconvénient, c'est que ça change complètement notre rapport, nous, utilisateurs et consommateurs, notre rapport à ces biens culturels.
Ceci dit, il y a une astuce, toute bête. C'est, la gestion de ces droits permet quand même la copie et la gravure sur CD de ces chansons. Donc, il suffit de graver toutes les chansons qu'on télécharge sur CD pour après faire sauter cette protection-là et avoir des chansons, en tout cas des titres, libres de droits qu'on peut après manier à volonté.
C'est vrai, c'est même ce qui est recommandé sur certains sites de téléchargement, mais enfin, c'est quand même assez surréaliste, hein, parce que du coup, ça casse la logique même des DRM.
Je dirais même, c'est ubuesque. Et tout ça, voilà, va se répéter sur la vidéo, puisqu'aujourd'hui
Absolument. On
parle de musique, mais demain, ça sera la même pagaille avec la vidéo.
Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mon ami.
Dialogue, François Sorel, Jérôme Colombin.
Jérôme, je dois t'avouer quelque chose, je déteste les lettres recommandées.
Les recevoir ou les envoyer ?
Les deux, parce que pour les envoyer, il faut aller à son bureau de poste, faire la queue, perdre du temps, voire même beaucoup de temps. Et puis quand tu en reçois une et que tu n'es pas chez toi et que tu as l'avis de passage dans ta boîte aux lettres, il faut que tu ailles à la poste. Enfin bref, c'est une perte de temps. Sauf que il existe aujourd'hui une alternative aux recommandées postales.
Allons bon, qu'est-ce que c'est le pigeon voyageur ?
Je suis pas sûr que le pigeon voyageur en ces périodes de grippe aviaire soit le meilleur exemple à donner, monsieur Jérôme Colombin.
Revenons à nos moutons.
En fait, plus sérieusement, il existe aujourd'hui une alternative véritablement aux recommandés postales. On peut envoyer un recommandé par email grâce à l'internet.
Certimail est une boîte française qui vient de lancer un nouveau service. C'est Rémi Poulet qui va nous expliquer tout ça.
Rémi Poulet, bonjour. Vous êtes président du directoire de Certimail.
Oui, bonjour.
Les emails recommandés sur internet, ça existe déjà depuis pas mal de temps. Et finalement, qu'est-ce que Certimail propose de plus ?
Le mot de recommandé ou le mot d'email recommandé est un mot largement galvaudé en fait. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas signer un contrat par email, vous ne pouvez pas signer un bon de commande par email jusqu'à aujourd'hui. La différence de CertiMail, c'est justement que associé à cette notion de mail entre guillemets sécurisé, on vous apporte en fait un élément qui est une clé USB qui va vous permettre de fournir votre identité et donc de vraiment signer en tant que personne, en tant qu'individu, cet email. Donc, par rapport à tous les services existants, qui vont simplement avoir de la traçabilité, sans preuve de personne, d'identité, vous allez être dans une logique où ce mail-là sera vraiment signé, non répudiable, et conforme à la loi.
Concrètement, ça veut dire qu'il faut avoir, pour se certifier en quelque sorte, une clé USB.
Tout à fait. C'est une petite clé qui est en fait fournie par notre partenaire GEM+, qui contient deux choses. Une petite mémoire flash de 128 mégaoctets dans laquelle vous pouvez stocker les contrats que vous voulez signer en rentrant chez vous, par exemple. Et puis surtout, en fait, une carte à puce qui est très, très, très sécurisée, qui est bien plus sécurisée qu'une carte bancaire, par exemple, et qui va vous permettre de signer vos emails et vous identifier.
Je vais vous poser ma question préférée. Combien ça coûte ?
Ça coûte 99 € TTC la clé. Ensuite, dans cette clé, vous aurez 10 mails. Si vous êtes une entreprise, vous allez acheter en fait des packs un peu plus complets. Et puis après, vous allez payer au trafic. Donc le principe est simple, c'est un peu moins cher qu'un timbre. Chaque mail va vous coûter approximativement, quoi, même très exactement, 50 € TTC. Et pour une entreprise, 42 € hors taxe.
C'est-à-dire que pour un particulier, il faut être assez procédurier pour que ce soit rentable.
Pour un particulier, l'envoi en lui-même va vous permettre d'envoyer un courrier à l'international, en Europe. pour moins cher qu'un timbre. Tout simple, physique. J'ai envie d'écrire à ma banque pour demander un virement. J'ai envie d'écrire à mon assurance pour faire une déclaration de sinistre. Et j'ai surtout envie, par exemple, de me faire une copie à moi-même de ma déclaration d'impôt pour que dans 4 ans ou 5 ans, lorsque le fisc se retournera vers moi parce que j'ai fait ma déclaration en ligne, j'ai aussi la preuve de ce que j'ai annoncé à ce moment-là. Donc pour le particulier, il y a beaucoup d'usages, même écrire à son école. Si votre fils vous appelle le midi en disant qu'il est malade et qu'il peut pas aller au sport et vous lui faites confiance, et vous pouvez le laisser rentrer, mais ça fait un transfert de responsabilité entre l'école et vous-même, en tant que parent.
Enfin, et si l'enfant vous pique la clé USB, là, on est embêté.
Il faut, non, parce que la clé USB en tant que telle, c'est comme votre carte bleue. Il va falloir vraiment taper votre code.
Encore faut-il que l'école et que, d'une manière générale, les destinataires acceptent ces emails certifiés. Moi, je connais pas beaucoup d'écoles aujourd'hui qui acceptent de recevoir des mots des parents par Internet.
En recommandé.
C'est normal, nous sommes les premiers en Europe et nous existons depuis 2 jours. Donc c'est normal qu'aujourd'hui l'usage soit pas encore complètement rentré. Maintenant, on est assez confiant sur le fait qu'il rentrera rapidement.
Rémi Poulet, merci.
Et si on veut en savoir plus, le site certimail.com. François, tu sais ce que c'est, ça?
T'aurais pas été DJ, Jérôme Colombin, dans une autre vie, non?
Il y a très très longtemps.
Ouais, ça, alors ça, je sais ce que c'est, j'adore, c'est Coldplay. Tiens, mais puisque j'ai bien répondu à ta question, qu'est-ce que j'ai gagné?
Alors toi, rien du tout. En revanche, Alex Ostrovski, lui, il a tout gagné parce que il a téléchargé ce morceau sur iTunes Music Store. Oui. Et c'est la milliardième chanson téléchargée sur iTunes.
Et ce Alex Ostrovski va recevoir pas mal de cadeaux de la part de Steve Jobs. Il est quand même assez verni, hein, Alex. Hein.
Qui est Alex ou Steve?
Les deux. Mmh. Mais enfin, 10 000 dollars déjà de bons d'achat en iTunes. Mmh. Ça fait quand même 10 000 chansons, c'est pas mal.
C'est déjà de quoi remplir un baladeur. Hein,
10 iPods.
Alors c'est intéressant parce que c'est vraiment le succès de la musique commerciale avec un bon modèle économique des chansons à 99 centimes. iTunes, faut reconnaître que Apple a inventé ce nouveau marché, a réussi à faire décoller pour de bon ce nouveau marché.
Cela dit, Jérôme, on va peut-être tempérer cette euphorie, car 1 milliard de titres dit comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup, mais en 3 ans, finalement, c'est pas tant que ça. Il faut savoir que d'après une récente étude qui a été faite en France, nous téléchargeons, nous, Français, 1 milliard de titres par an.
Oui, mais alors là, tu veux parler de téléchargement pas franchement légaux.
Complètement. Mais bon, c'est pour te montrer qu'il y a encore pas mal de boulot de la part des distributeurs de musique en ligne et des majeures compagnies pour essayer de contrecarrer cette hémorragie.
Mais ça, c'est énorme. C'est toute l'économie de la culture de demain qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Hein.
Très bien. Et c'est là-dessus qu'on va se dire au revoir, Jérôme.
On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro de Dialogue.
Ça sera le numéro 7. Et puis d'ici là, si vous avez envie de nous écrire, n'hésitez pas. Vous savez où nous sommes et ça nous fait énormément plaisir de vous lire donc chaque semaine. Salut à tous.
À très bientôt.
Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur Cisco.fr.